Bonjour à tous et toutes, quelle que soit l'heure de la journée où vous êtes. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de vous joindre à nous, de vous joindre à la réunion du secrétariat du Fonds de l'initiative ELSI, le EIF, pour notre quatrième série de programmation. Alors, quelques points de logistique. Donc, un service d'interprétariat live est disponible aujourd'hui. J'espère que les francophones m'entendent bien sur le canal français. Cliquez sur le globe en bas de votre écran et sélectionnez la langue que vous dans laquelle vous préférez écouter. Vous pouvez seulement vous joindre, accéder à cette fonction interprétariat si vous êtes sur votre ordinateur portable. Nous demandons à tout le monde de parler lentement et clairement afin d'aider les interprètes qui travaillent pour nous aujourd'hui. Le brief technique est enregistré en quatre langues et sera téléchargé sur le site web de l'EIF, du Fonds pour l'initiative de l'initiative ELSI, dans les jours à venir. Et la présentation sera également disponible en anglais et en français. Concernant les questions, veuillez utiliser la boîte questions-réponses et taper vos questions dans cette boîte dialogue questions-réponses. Et ensuite, tout le monde est invité à poser et répondre aux questions pendant ce segment. Donc maintenant, je voudrais vous inviter Monsieur Jacob Jones, qui est le premier qui est dans la mission permanente du Royaume-Uni aux Nations Unies, co-président du comité de pilotage de l'EIF. Jacob, allez-y, je vous passe la parole. Merci beaucoup à vous et bienvenue à tous et toutes. J'aimerais commencer par exprimer l'appréciation du Royaume-Uni à UN Women, UN Femmes et au secrétariat de l'initiative ELSI, le fonds de l'initiative ELSI, et à tous les participants pour leur engagement pour un lancement de très haut niveau la quatrième série de programmation de l'EIF le 4 octobre. Donc, le fonds d'initiative ELSI a été établi pour identifier et adresser les barrières, les obstacles institutionnels qui empêchent aux femmes d'être déployées et vraiment de s'épanouir au sein de l'UN. Et nous sommes maintenant dans notre quatrième année et pendant ce temps, ELSI a fourni son expertise technique à 16 troupes et pays contribuants, fournisseurs de contingents et de forces de police. Et également en assurant la formation attentive au genre, à l'égalité des genres. Et bien entendu, ceci nous offre une opportunité renouvelée en termes de coopération pour le maintien de la paix par rapport aux séries précédentes, et également de développer des choses qui sont transformatives, pratiques et éprouvées. Donc, en ce moment, nous vivons une période difficile pour le maintien de la paix, mais néanmoins, il y a des réductions d'émissions. Et ce qui est encore plus critique, c'est de pouvoir soutenir les progrès concernant l'inclusion, l'égalité des genres et l'inclusion, et pour permettre aux personnes de satisfaire à leur mandat. Il faut bien dire que le maintien de la paix attentive à l'égalité des genres fait partie intégrante de l'efficacité et de la crédibilité de nos missions, également de la durabilité de la paix. J'aimerais également réaffirmer l'engagement continu du Royaume-Uni en tant que coprésident de l'initiative du comité de pilotage de l'EIF envers les membres partenaires et les partenaires des Nations Unies pour s'assurer que le fonds continue à catalyser les progrès et également nous permettre de fournir des résultats vraiment mesurables pour l'avancement de la participation d'une participation des femmes qui a du sens. J'aimerais remercier le DPO, les pays participants et les divers collègues de leur participation et collaboration et encourager les membres présents aujourd'hui d'approfondir leur compréhension des modalités du fonds EIF et également de s'engager dans cette quatrième série de programmation. Merci beaucoup à vous. Merci, Jacob. J'apprécie beaucoup vos commentaires d'introduction. Je vais maintenant accueillir le capitaine de marine Lonnie L. Fitch Jr., qui était l'officier responsable, chef d'état-major et au bureau des affaires militaires au service des opérations pour la paix, de nous offrir ses commentaires d'ouverture concernant le travail élargi des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et pour nous donner le contexte pour le IEF. Allez-y, je vous en prie, capitaine Field. Bonjour, chers collègues, c'est vraiment superbe d'être avec vous aujourd'hui et de continuer notre élan après le lancement puissant de la semaine dernière pour la quatrième série de programmation de l'EIF. Alors, le lieutenant général Cheryl Pierce a vraiment établi les choses très bien en nous rappelant que avancer la participation, une participation qui a du sens pour le maintien de la paix, n'est pas juste un objectif politique, c'est un impératif de mission. Et en fait, et nous s'assurer que il y a tous les jours inclusion et efficacité opérationnelle et que cela va de pair. Notre partenariat avec le IEF est la preuve que quand nous combinons la vision avec l'action, nous pouvons effectuer réaliser de vrais changements. Ce partenariat n'est pas théorique. Il permet aux pays fournisseurs de contingents et de fonds de police de se pencher de manière honnête aux obstacles qui sont un frein pour les femmes et de faire cela avec elles. Et en réformant les systèmes de déploiement, en améliorant les normes d'hébergement et en repensant les pipelines de formation et en élargissant les opportunités leadership. Ce sont des étapes tangibles qui font que nos contingents vont être plus forts, plus homogènes et mieux servir les communautés qui dépendent, qui comptent sur nous. Et soyons clairs, ce n'est pas juste une question de cocher les cases ou de satisfaire aux quotas, ceci a vraiment à voir à la performance. Ce n'est pas juste cocher des cases ou satisfaire des quotas, c'est vraiment la performance qui compte. Des équipes plus inclusives prennent de meilleures décisions quand elles sont sous pression, s'adaptent plus rapidement dans les environnements complexes et gagnent également plus rapidement la confiance des populations qu'elles servent. C'est ce que l'efficacité opérationnelle, c'est ce à quoi ça ressemble. Maintenant, le maintien de la paix doit faire plus avec moins de ressources, moins de ressources, moins de personnel, des mandats de plus en plus compliqués. Dans cet environnement, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser quelques capacités que ce soit sur la touche. Et donc, le maintien de la paix attentif en matière d'égalité des sexes n'est pas optionnel, c'est essentiel. C'est comme ça que nous allons soutenir, appuyer l'état de bonne préparation et la résilience, même dans les conditions les plus difficiles. Et maintenant, comme quelqu'un qui a servi dans la marine américaine depuis 30 ans, je suis particulièrement attentif au fait qu'aujourd'hui, c'est le 250e anniversaire de la marine américaine. C'est un moment pour refléter sur les valeurs durables qui ont façonné les générations et le servi l'intégration de diriger en servant les objectifs et de façonner et avec ténacité. Nous reconnaissons également le leadership continu du Canada, le membre fondateur du fonds et le Royaume-Uni en tant que coprésident, ainsi que tous les bailleurs de fonds et partenaires qui soutiennent et assurent que l'EIF continue à catalyser les progrès et permet aux États membres de fournir des résultats mesurables. Donc, mon message aujourd'hui est simple. Continuons à aller de l'avant, à pousser pour aller de l'avant. Assurons-nous que plus d'États membres, plus de contingents, plus de missions puisent dans l'EIF, non seulement pour avancer en termes d'égalité des genres, mais également pour établir des forces de maintien de la paix qui sont mieux capables, inclusives, plus efficaces que celles que nous avons jamais mises sur le terrain. Ensemble, nous pouvons assurer que l'égalité des genres n'est pas juste une valeur dont on parle, mais que c'est vraiment une norme que nous vivons. Merci pour vous. Alors, merci beaucoup au capitaine Lone. Donc, vous avez vraiment très bien décrit la manière dont les fonds, les États membres, les opérations de soutien ont besoin d'avancer. Comment nous devons évoluer. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment approfondir le sujet sur la manière dont l'EIF fonctionne, nos mécanismes de financement et également, je vous montre l'ordre du jour là pour le briefing d'aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la présentation dans le détail. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous dire pourquoi nous appelons le fonds Elsie. Elisabeth Elsie Muriel Gregory McGill a reçu l'ordre du Canada. C'était une citoyenne du Canada, née en 1905, et elle a beaucoup de firsts. C'était la première dans bien des domaines. Et non seulement en termes de ses réalisations techniques, en ingénierie, elle était également, elle défendait les droits des femmes et des enfants. Et son héritage, vraiment, de briser les obstacles, et en termes d'égalité des femmes, c'est exactement notre éthique à l'EIF. Et donc, pour s'assurer que nous pouvons façonner ainsi les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Également, souhaitons reconnaître la contribution de nos bailleurs de fonds. Donc, le fonds avait prévu de soulever 40 millions de dollars et aujourd'hui, nous avons dépassé ceci avec 52 millions de dollars de fonds levés. Nous avons également approuvé un peu plus de 20,5 millions de dollars à ce jour. Et depuis notre introduction, vous voyez également les institutions de sécurité que nous soutenons déjà, ainsi que les pays qui contribuent, qui fournissent des contingents et des forces de police. Et donc, nous avons également trois opérations de la paix des Nations Unies et plusieurs en cours. Il y en a une qui est maintenant conclue et qui touche à sa fin. Dans la quatrième série de programmation, nous avons alloué environ entre 8 et 10 millions de dollars pour être appliqués au fonds. Alors, vous voyez sur cette carte, nous avons 12 projets que nous avons complétés, achevés avec succès. Et nous avons également reconnu que nous avons soutenu 8 institutions de sécurité pour qu'elles puissent compléter leurs travaux, leurs opportunités de mission pour les femmes. Et donc, ceci a été publié, est publié sur notre site web. Sur les 6 institutions qui ont déjà publié leur rapport dans la première ou deuxième série de programmation, les avons invités à développer une proposition de projet détaillée pour la troisième série de programmation. Et parmi ces 6, deux ont déjà été approuvés et deux à trois autres sont dans les dernières étapes de finaliser leur document de projet, leur dossier de projet. Et donc, nous avons l'intention d'aller visiter. Je vous invite à aller voir sur le site web du LC Initiative Fund. Vous verrez ce qui se passe en termes de ces projets, de financement de ces projets. Je vais maintenant passer la parole à Agathe qui va nous parler de l'initiative pour le fonds. Donc, Agathe, Christiane, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Deb. Alors, quel est l'objectif et le raisonnement derrière l'EIF? Donc, c'est simple. C'était qu'un manque de fonds ne doit pas jamais être un obstacle en tant que soi pour faire avancer l'égalité des genres au sein d'une institution. Nous sommes un fonds novateur conçu pour soutenir et incentiviser les efforts pour accroître la participation, une participation qui a du sens des femmes en uniforme dans les opérations de paix des Nations Unies. Nous avons été établis en 2019, pardon, excusez-moi, y compris le Canada et les experts de maintien de la paix et du système des Nations Unies. Nous sommes entièrement alignés avec le cadre des Nations Unies, en particulier en ce qui concerne l'UGPS, qui est la stratégie de parité des genres, d'égalité des genres des personnes en uniforme, et également la résolution du Conseil de sécurité, y compris l'UNSCR, qui se concentre sur l'élimination des obstacles qui empêchent aux femmes d'être déployées, en particulier dans des rôles où elles sont en uniforme. Donc, maintenant, vous verrez sur nous sommes vraiment entièrement alignés sur l'UGPS et on voulait vous donner vraiment un aperçu de ce qu'étaient ces cibles à partir de décembre 2024. Et donc, vous voyez là que les cibles de l'UGPS, qui sont les lignes en pointillés pour chacune des 5 catégories d'uniformes, donc c'est comparé aux chiffres réels. Et vous voyez que nous avons réalisé nos cibles, nos objectifs pour les femmes policières, les unités de police, pour les observatrices militaires et également officiers d'état-major. Et donc également, mais pour les troupes, nous sommes à la traîne par rapport à la cible. Il est important de dire que ces cibles sont un minimum et non un plafond et que l'engagement soutenu par les systèmes des Nations Unies, en fait, il faut vraiment pouvoir combler cet écart, en particulier en ce qui concerne les troupes en uniforme. Maintenant, vous allez voir qu'au-delà de cela, le fonds, l'EIF a l'intention de faire avancer une participation qui a du sens participation des femmes qui a du sens. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Donc, en fait, par le biais de cela, on veut dire la présence et le leadership des femmes au sein des opérations de paix des Nations Unies, dans tous les rôles et toutes les fonctions, y compris dans les positions, dans les élevées. Et ceci signifie que, il y a une contribution, donc les femmes participent de manière qui a du sens quand elles contribuent à ou sont incluses dans tous les aspects de planification opérationnelle et de mission, également quand elles sont dans des rôles de commandement et de position de leadership, et également dans des rôles non traditionnels et non stéréotypés. Par exemple, mécanicienne, chauffeur de véhicules, etc., par exemple. Également, quand elles ont accès à la même formation, aux mêmes promotions et avancement de carrière, opportunités d'avancement de carrière que leurs collègues qui sont des hommes. Et également, quand elles occupent des postes qui sont en ligne avec leur formation, rang, domaine d'expertise. Et également, c'est extrêmement important lorsqu'elles ont un lieu de travail qui est libre de toute forme de harcèlement, de bullying et d'intimidation. Maintenant qu'on a couvert les objectifs et pourquoi le fonds, l'EIF a été établi. Donc maintenant, comment allons-nous réaliser son impact? Comme vous le voyez à l'écran, nous avons un cadre de résultats de l'EIF pour mesurer l'impact et les résultats. Et tous les projets que nous finançons doivent participer à un des quatre résultats que vous voyez affichés à l'écran. Donc en fait, au niveau de l'impact, on essaie d'accélérer le rythme de changement vers la participation importante des femmes et accrue des femmes en uniforme dans les opérations de paix de l'ONU. Également, le deuxième impact se concentre sur le savoir. Donc, le savoir nous permet de contribuer à la conversation mondiale sur l'accroissement de la représentation des femmes en uniforme dans les opérations de paix de l'ONU. Et en partageant les enseignements tirés, les meilleures pratiques, aussi bien au sein du TPCC qu'à travers les diverses missions et également dans les secteurs élargis. Et finalement, dernièrement, et très très important pour les organisations de l'ONU qui appliquent ce quatrième. Cette quatrième série de programmation, il faut qu'il y ait un ou plus des quatre résultats que vous voyez à l'écran. Le premier étant d'avoir des connaissances étendues des obstacles spécifiques au pays concernant le déploiement des femmes en uniforme, des soldats de la paix, femmes en uniforme pour les opérations de la paix des Nations Unies. Également, accroître le déploiement des femmes qui maintiennent la paix dans les opérations de paix des Nations Unies. Troisièmement, avoir vraiment un pool accru, plus important de femmes en uniforme qui sont éligibles à être déployées en tant que soldates maintenant la paix pour l'ONU. Et également, quatrièmement, améliorer le travail, les conditions de vie et de travail pour les femmes en uniforme. Donc, qui peut faire une demande auprès de l'EIF? Quels sont les critères d'éligibilité, etc. Je passe la parole à Martha. Merci beaucoup, Agathe. Bonjour à tous et toutes. Maintenant, on va vous dire qui peut faire une demande auprès de l'EIF. Explicitement, ce sont les gouvernements nationaux. Et là, on regarde quels sont, alors, en particulier les pays fournisseurs de contingents et de forces de police, en particulier les institutions liées à la sécurité militaire, police ou gendarmerie, selon le contexte spécifique au pays. L'autre catégorie sur laquelle nous pensons, c'est PUNO, les organismes des Nations Unies participants, et donc les opérations de paix des Nations Unies, les missions de paix, également les diverses agences de l'ONU, fonds, programmes, qui pourront également faire une demande en partenariat avec les institutions qui fournissent des contingents et forces de police. Et également, elles peuvent faire une demande directement auprès de l'EIF. Ce qu'il nous faut mettre en exergue ici, c'est que ces institutions de sécurité doivent clairement contribuer à un ou plusieurs des résultats que nous avons mentionnés à la diapo précédente. Également, nous encourageons les CSO. Donc, les CSO ne peuvent ne pas forcément
participer directement parce que donc les organisations de société civile, mais elles ajoutent une valeur. Ça, il y a une valeur ajoutée quand on travaille avec les organismes de la société civile parce que ces organisations de la société civile, OCS, veulent dire qu'elles amènent cette dimension de paix, sécurité des femmes, divers les composants spécifiques aux femmes ainsi que des perspectives régionales. Ce que nous avons constaté lors des séries de programmation préalables précédentes, c'est que les institutions se sont engagées ont engagé des partenaires de recherche indépendante pour faire effectuer des évaluations des obstacles. Et nous avons par exemple des exemples de divers pays, par exemple le Libéria qui a utilisé l'Institut Kofi Annan pour la transformation, et l'Ouganda qui utilise une université, le Sierra Leone qui a utilisé diverses choses en termes de l'évaluation des obstacles, en termes de la police, et donc les opportunités d'engagement avec il y a plusieurs opportunités de s'engager avec diverses organisations. Donc, nous allons maintenant passer à la diapo suivante. Donc, les critères d'éligibilité. Et donc, nous vous avons indiqué que à l'UN ou aux pays fournisseurs de contingents et de forces de police doivent satisfaire au moins à un des critères. C'est-à-dire, il faut que ça soit vraiment un pays fournisseur de contingents et de forces de police. Sinon, il faut démontrer une intention sérieuse de devenir un pays un TPCC. Et donc, et également une intention sérieuse de participer au maintien de la paix. Il faut avoir des éléments probants que cela est en place. Une autre chose que nous recherchons est le niveau le plus élevé d'engagement possible. Donc, si par exemple, c'est une institution militaire qui fait la demande, il faut avoir l'approbation du ministère, du chef de la défense pour cette institution militaire dans le pays en question. Par exemple, si c'est la police, on anticipe que ce sera le ministère de l'Intérieur ou une institution ou un organe similaire ou bien que ce soit le haut commissaire de la police ou l'inspecteur général. Il faut que ce soit vraiment à très haut niveau et il faut que ça soit approuvé, que donc la proposition soit approuvée. Ça, c'est vraiment, ça change la donne. Si on n'a pas cet engagement à ce très haut niveau, il devient difficile de procéder avec le projet. Et également, un autre point que nous attendons, c'est que les pays qui vont faire leur demande acceptent que le secrétariat de l'EIF publie leur évaluation des barrières, des obstacles. Et également, BOWIP, et donc les opportunités pour les femmes dans les opérations pour la paix, leur rapport MOWIP sur le site web de l'EIF. Et donc, on vous a déjà montré. Donc, également, on n'a pas de page dédiée à tout cela et à ce qui a été fait. Et de nouveau, un pays peut décider de faire une évaluation directe des barrières, des obstacles, ou bien demander au secrétariat de l'EIF d'effectuer cette évaluation. Faisant partie de ce processus, il y a certaines exigences que nous anticipons que tous les demandeurs doivent satisfaire. Donc, on travaille avec la due diligence et on veut s'assurer que les pays demandeurs sont vraiment respectent bien les droits de l'homme. Et il faut s'assurer que si c'est la police ou la gendarmerie, donc on va effectuer une évaluation de risque des droits de l'homme concernant leur politique en termes de droits de l'homme. Et également, l'autre aspect sur lequel il faut se pencher, c'est les capacités de gestion humaine et financière. Et donc, est-ce qu'ils reçoivent des fonds directement? Donc, si c'est le cas, l'EIF devra faire une consultation au niveau mondial, en particulier avec le TPCC. Donc, et si vous tournez vers une agence des Nations de l'ONU, cette agence va effectuer une approche harmonisée en termes pour le transfert de fonds.
mais pour les droits de l'homme, l'évaluation de risque, l'EIF, bien entendu, va contracter, mettre sous contrat les consultants directement. Un autre point à mentionner, que c'est une attente, c'est un attendu, avant de pouvoir transférer tous les fonds, quels qu'ils soient. Il faut que ça soit vraiment une agence ou un pays fournisseur de contingent des forces de police. Si c'est la première fois avec nous, il faut vraiment approuver. Si c'est un gouvernement fournisseur de contingent et de forces de police, il faut signer un accord, approuver l'accord, s'assurer que ça soit avec le bureau des partenaires. Et de même, pour les agences de l'ONU, il y a un mémorandum de compréhension qui doit être approuvé, signé, et qui est une condition préalable pour pouvoir accéder au programme. Donc maintenant, les trois divers types de financement que nous avons et pour lesquels les pays et organismes fournisseurs de contingents et de forces de police peuvent faire leurs demandes. Tout d'abord, quelle est, donc ça, c'est vraiment la base, le basique. Il faut qu'il y ait des éléments probants. On veut comprendre quelles sont les barrières, les obstacles qui ont été mentionnés dans l'institution de sécurité. Ça peut être des obstacles, des barrières institutionnelles. Ça peut être diverses problématiques. On veut comprendre est-ce qu'il y a des questions, des problèmes d'exclusion sociale, d'hébergement, de critères de déploiement. Quelles sont les barrières qui font que les femmes n'ont pas d'engagement qui a du sens, n'est-ce pas? Et donc, on veut vraiment comprendre cela. Et également, pour l'évaluation des barrières, quand un pays ne peut pas le faire seul, on veut s'assurer, à ce moment-là, on va le faire ensemble. Le deuxième type de financement, c'est le financement de projets flexibles. Et c'est lorsqu'il y a soit un TPCC actuel ou en perspective. Et il faut, pour cela, il faut s'assurer que vous faites cette évaluation. Il faut faire l'évaluation d'abord des obstacles ou barrières spécifiques. Et donc, ça va être pour déterminer, pour s'assurer que vous adressez bien les problèmes qui ont été mis en exergue dans l'évaluation. Et donc, pour tester les modalités du financement de projets flexibles. Le troisième, c'est le GSU, ou unité forte pour le genre. Alors, bon, ça, c'est un peu, c'est pour quelque chose qu'il faut déployer, il faut faire une rotation. Et donc, normalement, et l'exigence pour les femmes, ce qu'on demande, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un engagement sur 3 ans minimum d'augmenter le nombre de femmes et la rotation des effectifs. Et le rapport d'évaluation des barrières est requis et une condition préalable. Vous ne pouvez pas faire la demande pour le BA et le GSU en même temps, oui, mais pas pour le BA et le FPF. Donc, j'aimerais maintenant inviter, attendez très rapidement. Et donc, maintenant, alors, pour l'évaluation des barrières, donc on étudie les éléments probants empiriques en termes des barrières institutionnelles, stéréotypes en termes de genre. Et c'est une évaluation de base pour les barrières existantes pour évaluer les progrès. Et ensuite, ce qu'on souhaite faire, quelle est la nature et l'étendue, la portée de ces barrières, en particulier pour les femmes, les soldates de la paix qui sont qualifiées et déployées. Et donc également pour le TPCC, il faut que ça soit crédible et également partager cela avec l'EIF. Ou sinon, on recommande également un pays fournisseur de contingents de forces de police et s'assurer que on recommande fortement d'utiliser cela en se servant du Centre pour la gouvernance du secteur des sécurités de Genève pour évaluer, assurer qu'on utilise la méthodologie d'évaluation des barrières MOWIP. Maintenant, je souhaite inviter Dika, Frika et Annie. Je passe la parole aux personnes suivantes. Merci beaucoup, Martha.
Bonjour. J'ai parlé de la méthodologie qui parle des opportunités pour les femmes et les opérations de paix. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Rina, chargée de projet principal, genre sécurité, Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF de Genève. Donc, le DECAF, c'est le centre, donc, pour le contrôle démocratique des forces armées. Et donc, le centre de Genève pour la gouvernance du secteur sécurité. Donc, la sécurité, l'entité, les genres, le DECAF, ça, en fait, c'est apporter des conseils sur les politiques, conduire des projets opérationnels de par le monde. Et avec il s'agit d'avoir une augmentation des participés pour avoir une participation majeure des femmes dans les maintiens de la paix. Donc, cela est inclus pour développer avec la méthodologie MOWIP, avec le. C'est avec la méthodologie, mesure de méthodologie du MOWIP qui va mesurer donc la participation significative des femmes dans les opérations de paix de la part du point de vue. Bonjour à tous, je suis docteur Atisela, je suis associée postdoctorale du laboratoire du secteur du genre et de la sécurité de GSS de l'Université Cornell. Je suis également professeure associée, également directrice du labo GSSS, également avec la méthodologie. Je suis sûre qu'avec Ariana, on va en discuter aujourd'hui. Et donc, on fait des. Dans cette session, nous allons parler des méthodologies ENIPES qui est. L'interprète vous prie de l'excuser, l'oratrice est très rapide. Il s'agit de l'accomplissement du MOWIP comme étant un processus transformatif, notamment dans les secteurs de l'institution, d'identifier les obstacles, les opportunités des femmes, notamment de leur participation significative. Donc, la méthodologie MOWIP s'inspire des leçons des pays et pilotes. Maintenant, je vais redonner la parole à Rena pour ce qui est de ce qui a été effectué jusqu'à présent, également de la méthodologie MOWIP. Merci beaucoup, Ati. Donc, pour parler du MOWIP, eh bien, aujourd'hui, il y en a 22 des rapports MOWIP effectués dans les 16 pays, pour les 16 pays. Alors, en plus de cela, des rapports MOWIP, en fait, il y a des rapports MOWIP qui n'ont pas encore été publiés, le premier en 2022 et l'autre plus récemment en mai 2025. Et ce quatrième programme, dans le cadre de ce programme, nous accueillons. Souhaitons la bienvenue au nouveau TPCC pour ce qui est de mettre en avant la participation des négatifs des femmes, comme vous pouvez voir, donc les pays qui ont participé, qui ont effectué cette démarche, qui participent. Merci beaucoup, Rina. Donc, pour ce qui est de la mise en œuvre de la méthodologie MOWIP, tout le processus est conçu pour être systématique, participatoire, également pour s'assurer que l'évaluation capte les structures institutionnelles, mais également les expériences personnelles dans le secteur de la sécurité. Également, pour mettre en œuvre le MOWIP, en moyenne, cela peut prendre entre 8 à 10, 12 mois pour être mis en œuvre, mais bien entendu, cela peut se faire plus vite si l'aspect, la partie préparatoire se fait rapidement. Et la première étape, c'est la préparation. C'est interactif, ça doit être fait de manière poussée. Il s'agit également de choisir les bons partenaires, également les équipes, etc. Et puis également les modèles. Deuxième jour, deuxième étape, c'est avec un partenaire. En fait, il s'agit de collecter les données. Ce sont trois étapes principales, c'est-à-dire, il s'agit de compléter un formulaire qui donne des données statistiques, y compris des données sur le personnel, les déploiements, ainsi que les politiques institutionnelles. L'étape suivante, porte sur des entretiens. Sur la question des gens, le maintien de la paix au niveau institutionnel, organisation gouvernementale, etc. Enfin, une enquête avec un certain nombre de membres du personnel, que ce soit hommes et femmes. Et enfin, les données seront analysées par une équipe de recherche pour rédiger le rapport avec les processus de collecte de données en partenariat avec moi-même et mes collègues au labo Connell. Quatrième étape, à présent, les résultats sont présentés aux institutions de sécurité via un processus de validation qui va apporter aux institutions de sécurité avec l'opportunité de repasser en revue les résultats, les évaluations et d'arriver à des recommandations. Et enfin, cinquième étape, il s'agit du lancement du rapport avec le suivi, les mises en œuvre et les recommandations. Et également, et le rapport sera, les rapports sont également donc publiés. Donc, il y a plusieurs façons selon lesquelles le DECAF et le CONEL peuvent vous aider. Bien entendu, avec le labo GSS, qui a une connaissance poussée sur les méthodologies MOWIP et donc aide le MOWIP, notamment pour ce qui, étant donné que c'est robuste d'un point de vue universitaire, avec une bonne compréhension du processus. Nous avons également demandé aux des personnes expérimentées pour effectuer ces enquêtes, pour faire des analyses des résultats de ces enquêtes, de ces sondages. Également, il s'agit de mettre en œuvre la méthodologie MOWIP pour plusieurs pays. Également, nous travaillons avec des partenaires locaux pour nous assurer de la qualité, du processus de collecte de données de qualité et fiable. Également, il s'agit de former l'équipe de recherche. Et puis également, il s'agit de rédiger les rapports et de collecter les données de manière sécurisée. Ensuite, redonne la parole à Rina. Alors, du côté des CAF, eh bien, le DECAF va nous aider, notamment pour ce qui est du Canada, pour appuyer le TPCC, pour mettre en œuvre les méthodologies. Au niveau des ressources que nous fournissons, eh bien, il y a davantage d'outils, également des documents qui peuvent être trouvés sur la boîte à outils des CAF, sur notre site Internet. Également, on brief les partenaires et les TPCC sur les méthodologies, on passe en revue les sections MOWIP, notamment pour ce qui est des candidatures qui sont envoyées via le IF. Également, on aide le DPCC pour le GPGC. TPCC, pour ce qui est de trouver les partenaires, également, on fait du mentorat, on donne des formations, on organise des sessions également pour qu'ils soient bien soutenus, les TPCC, notamment lors de l'étape MOWIP. Voilà, il y a ici une abondance d'informations qui est disponible pour vous, que vous pouvez pour en savoir davantage sur les méthodologies, également toutes les méthodologies concernant le MOWIP, également le bureau d'assistance MOWIP en collaboration avec le GSS Labo qui fournit des informations supplémentaires sur leur site Internet. Eh bien, ça, c'est très important puisque ça va être utilisé pour. Pris en compte pour l'analyse des données, etc., pour prendre décisions informées, éclairées, pour les évaluations dans vos pays. Cela peut consister en des universités de recherche, universitaires, etc. Il s'agit de bien comprendre les institutions, d'avoir une bonne comprendre ce qui relève des institutions sur la sécurité, mais également les genres, la question des genres, des hommes-femmes au niveau des questions de la sécurité, du maintien de la paix. Et donc, il s'agit d'avoir des compétences en méthodologie. Le bureau d'aide MOWIP peut aider à remplir l'évaluation MOWIP. Et cela a été également, il y a une assistance supplémentaire tout au long de la méthodologie, de façon que vous puissiez voir des exemples précédents sur les rapports publiés, d'autres informations sur le DECAF et l'ES. l'IEF également. Et il y a des vidéos, il y a des sites internet. Et tout cela sera discuté. Vous pourrez voir les liens. Je pense que cela sera partagé avec vous à un certain moment. Vous pourrez recevoir davantage d'informations, de ressources utiles pour ce qui est de mettre en œuvre la méthodologie MOWIP et également pour bien comprendre les choses. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, les standards minimums du MOWIP. Alors, la méthode peut être adaptée à un contexte national ou international. Cependant, il y a des critères qui doivent être remplis. Tout d'abord, ça doit être effectué avec une personnalité. Lorsque l'on choisit le partenaire d'évaluation nationale, il est impératif que ce partenaire ait accès aux institutions de sécurité, mais également qu'il soit en mesure de rester impartiaux lorsqu'ils effectuent l'évaluation. Deuxièmement, il s'agit de comprendre, il s'agit d'un ensemble de données qui soit complet. Il s'agit de fournir une liste de politiques de faits, de chiffres complets concernant l'institution via un formulaire fact-finding. Également, il s'agit de protéger les données sensibles sur tout le processus. Également, il s'agit d'avoir l'expérience, de recevoir l'expérience à la fois des hommes et des femmes en. Relevant les expériences à la fois donc du personnel masculin et féminin qui va permettre une comparaison systématique parmi sur tous les groupes. Donc là, il s'agit de sondages également. Il est important d'avoir un point focal pour pouvoir apporter un soutien si possible, support si besoin. Également, différents aspects, différentes perspectives de prise de décision. Et s'il s'agit d'expliquer comment les décisions stratégiques sur les priorités en termes d'opération de la paix pour un pays, comment ils sont effectués, appliqués, pris pour un pays. Là, ça, c'est possible via un entretien. Également, il y a 8. Alors là, il s'agit de couvrir tous les domaines problématiques. Il s'agit de noter, de relever les données pour 10 domaines à problème. Par exemple, que ce soit les institutions de maintien de la paix, mais également voir ce qui relève le rôle des genres, le rôle des hommes-femmes, etc. Également, les résultats, les recommandations doivent être validées par les institutions de sécurité pour s'assurer que le rapport soit pertinent et sécurisé pour suffisamment sûr pour qu'il soit publié. Alors voilà, ici les résultats mondiaux pour les rapports MOWIP. Alors, comme ça a été mentionné précédemment, il y a deux rapports MOWIP qui ont été publiés à ce jour, l'un en 2022, l'autre en 2025. Eh bien, qu'est-ce que cela s'y montre? Eh bien, le premier rapport MOWIP présente des données consolidées en utilisant la méthodologie MOWIP à partir de quatre TPCC, en se focalisant sur les recommandations pour ce qui est des politiques de maintien de la paix, à partir de ce rapport, donc également l'autre rapport que vous voyez, l'avenir du maintien de la paix a besoin de tous, et bien là, porte sur les principaux obstacles, là, et également propose des recommandations pour les TPCC, et également pour tout ce qui est obstacle face au maintien de la paix. Donc, tous ces deux rapports sont accessibles via les sites Internet. Alors, ces deux résultats au niveau à l'échelle mondiale hein, des rapports MOIP et bien correspondent au dialogue au niveau des politiques, et au niveau international. Parmi les exemples, et bien, le MOIP peut être utilisé pour répondre aux besoins pour ce qui est de la mise en place de plans d'action liés au maintien de la paix, des opérations de la paix, par exemple la conduite, les uniformes. On a pu voir que l'exploitation, l'abus sexuel, pré-déploiement, pré-opération. Eh bien, il y a eu des informations par rapport à cela. Et également, il y a la problématique, des problématiques qui n'ont pas été discutées précédemment par des leaderships, notamment les uniformes et les croyances religieuses, etc., etc. Et parfois, ces problématiques sont très sensibles pour le personnel, pour que le personnel puisse le mettre sur la table. Mais c'est en fait important d'en discuter avec le personnel. Et enfin, Comment arriver à comment travailler sur la question de l'exclusion sociale, donc au niveau des données que ces projets utilisent, est crucial pour toutes mesures, toutes les missions de maintien de la paix à venir. Et c'est ce que vous pouvez voir donc à droite et également à gauche. Maintenant, si on passons à la slide suivante, eh bien, on va voir des évidences, des preuves des évidences concernant les nombres des femmes qui sont déployées pour les opérations de la paix. Tous les exemples ici seront mentionnés sans identifier les pays, les TPCC en question. Certains des exemples consistent en des nombres de femmes qui sont déployées dans les opérations de paix et qui incluent les suivants. Il y a par exemple le déploiement de femmes entre 30% à 80% vers une opération de la paix, concernant une opération dans un autre TPCC. Il y a une augmentation de 25% en 2022, passant. Qui a augmenté en 2023 dans une opération de la paix. Et enfin, le nombre de femmes, la proportion de femmes maintien de la paix de 80 PCC, de 18 PCC, eh bien, ça a augmenté entre 2022 et 2023. Et sur la slide suivante, eh bien, vous verrez des résultats clés dans les développements d'infrastructures. Et je partagerai des exemples avec les rapports suivants. Donc, pour ce qui est de la formation des femmes dans ces centres, eh bien, on a pu le voir dans l'un des TPCC, également dans un autre TPCC, eh bien, il y a un point d'hébergement qui a été construit pour les femmes, mais également dans un autre pays, en fait, il y a un autre qui a été qui était en cours de construire avec. Et également, juste pour partager avec vous quelques infrastructures slide suivantes, on voit ici certains des développements provenant des développements de politique sur développement de politique, mise au point de politique. Et dans un TPCC, il y a une campagne de recrutement ciblant les femmes en travaillant sur la mauvaise conception du déploiement des hommes-femmes dans un autre TPCC qui a été pilote pour ce qui est de la prise en charge de la famille, les enfants, etc. Dans un autre TPCC, une politique contre l'abus sexuel, contre l'exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel. Eh bien là, ça a été mis en place dans le cadre d'une formation pour les officiers. Et également un dépistage de cancer du sein dans certaines institutions, également des programmes de santé mentale. Et enfin, pour ce qui est des résultats sur l'avancée, la progression, l'avancée en termes de carrière, la promotion professionnelle, eh bien, il y a des formations en termes de plomberie, en termes d'informatique, dans différents domaines pour mettre en avant leurs capacités dans le cadre de déploiement de maintien de la paix. Et dans un autre TPCC, il y a 15 ou 50 femmes qui ont été préparées pour passer des examens pour entrer dans la police avec un taux de réussite très élevé. Dans un autre TPCC, il y a 100 femmes qui ont été formées pour pouvoir faire des analyses scientifiques pour la police. Il y a d'autres exemples sur la promotion professionnelle qui peut inclure, par exemple, plus de 23 000 lycéens qui sont formés pour intégrer la police et puis le cadre militaire. Et enfin, il y a 200 femmes qui ont été soutenues dans le cadre du recrutement pour les enfants en sécurité, pour que les enfants soient en sécurité. Et il y a donc cela figure parmi les exemples que l'on peut partager avec vous. Maintenant, si on clique sur la slide suivante. Ici, on peut voir certaines des ressources que nous avons mentionnées du côté des CAF. Il y a eu le, voilà, le Lab GSS, mais également le Helpdesk MOWIP du DECAF. Vous pouvez donc, cela est disponible en scannant les QR codes. Et puis, bien entendu, il y a une newsletter que l'on envoie avec, dans lesquelles on partage beaucoup d'informations. Maintenant, je donne la parole à Ati pour les remarques de conclusion. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Rina. J'espère que vous avez trouvé l'information, cette présentation intéressante, informative. Vous avez notre adresse e-mail. Vous recevrez la présentation de toute façon. Et pour rappel, il y a ces outils du Helpdesk MOWIP qui disposent d'une abondance d'informations que vous pouvez, auxquelles vous pouvez avoir accès. Et moi, avec mes collègues, on est à votre disposition pour vous aider dans les méthodologies. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Irina Yati pour cette présentation extrêmement complète et intéressante. Donc, je vais continuer la série de présentations. Je vais parler sur les financements des projets flexibles de projets. Donc, l'OIF peut également fournir ce que nous appelons financement des projets flexibles, le FPF. Ce type de financement est disponible pour éliminer un ou plusieurs des obstacles qui ont été perçus dans le cadre de l'évaluation des obstacles, hein, dans le cas d'un pays contributeur de troupes ou de forces de police. La demande de financement de projets souples devrait viser à identifier et à surmonter les obstacles qui empêchent les femmes en uniforme formées et qualifiées de participer aux opérations de paix des Nations Unies. Voici quelques exemple de financement des projets pour l'UIF. Alors, vous avez des modalités. Il s'agit de s'occuper de une ou plusieurs obstacles, notamment pour ce qui est de leurs propres institutions de sécurité, mais également à long cours pour pouvoir soutenir le déploiement des opérations de l'ONU. Donc, ces obstacles sont identifiés via une évaluation des obstacles. Alors, il est important de voir cela avant que le TPCC soit candidat. Donc, un TPCC demande un FPF. Eh bien, on demande que stratégiquement, les obstacles ont été identifiés via l'évaluation des obstacles, mais également, il s'agit de les prioriser, ces obstacles, parce qu'il peut y avoir deux ou trois d'entre eux pour lesquels on demande qu'il y ait une priorisation des obstacles principaux qui peuvent être un obstacle pour que les femmes de maintien de la paix soient déployées. Donc, c'est la raison pour laquelle les propositions sont très pertinentes pour ce qui est des modalités du FPF. Également, j'aimerais vous donner des exemples du passé quant à la façon dont les TPCC ont été candidats, ont demandé, et les résultats également que nous avons reçus de l'EIF en termes de des modalités de financement flexible de projet. Alors, par exemple, les besoins médicaux pour les femmes dans les forces armées de Sierra Leone. Et là, il s'agit des efforts avec les étudiants en médecine, surtout les étudiantes en médecine, pour se joindre au domaine militaire. Au secteur militaire. Et par exemple, en Uruguay, il y a un financement qui soutient un essai innovateur de prestation de soutien familial afin de rendre le déploiement plus accessible pour les femmes ayant des responsabilités d'aidant. Et en conséquence, l'EIF montre que nous pouvons avoir un grand nombre de personnels qui ont été sensibilisés sur la question des genres, également pour ce qui est d'aller au-delà, donc 5 890 personnes qui ont été sensibilisées sur le rôle des femmes et l'intégration dans les institutions de sécurité par les forces armées. Également, un groupe de 202 femmes policières qui ont pu être déployées en tant que soldats de la PEM par la police nationale du Sénégal. Donc également, il y a des logements, des installations sensibles aux gens qui ont été construits dans trois pays, notamment dans la gendarmerie sénégalaise. On a construit un centre de formation et d'hébergement pour les femmes en Jordanie, par le directorat sur la sécurité publique et puis également des logements pour les femmes par les forces armées togolaises. Donc, toutes ces interventions ont été soutenues via l'EIF et cela a produit des résultats dans ce projet pour ce qui est d'intégrer les femmes dans les institutions candidates, ce qui fonctionne, ce qui apporte des opportunités pour celles qui participent au déploiement des opérations de la paix. Ce qui est important de noter ici, c'est surtout que ce qui fonctionne pour un pays ne va pas fonctionner, fonctionner pour un autre pays. Donc, nous demandons à ce que lorsque les TPCC font une proposition de FPF, eh bien, il serait bon de garder le contexte très spécifique à votre pays. Alors, peut-être, il ne sera peut-être pas possible d'avoir une solution pour un pays. Hein. Une solution pour un pays ne va pas s'appliquer forcément à un autre pays. Donc, une note stratégique que j'aimerais vraiment souligner ici, c'est que l'EIF ne finance pas l'achat d'armes, hein, ça c'est très important, de munitions, etc., hein, ou de véhicules. Hein. Une exception cependant, c'est l'usage. Lorsqu'il s'agit d'une arme, des armures corporelles, en fait, des éléments qui protègent le corps, ça c'est une exception. Mais s'il vous plaît, ne excluez l'achat des armes, des munitions et des véhicules. Maintenant, pour les missions ONU plus spécifiquement, eh bien, là, il s'agit d'innovation qui intègre les femmes dans la participation des femmes dans une mission en particulier. Donc là, une proposition spécifique à mission que on essaye d'avoir de la part des missions de l'ONU, il s'agit de traiter certains des obstacles que vous voulez surmonter pour la participation des femmes sur toute la mission. Ce que l'on ne demande pas, quand on ne demande pas un obstacle femme, eh bien, on vous encourage à avoir des évaluations basées sur les besoins et qui soient qui représente un certain une évidence crédible à montrer, montrant que les activités qui ont été proposées contribuent clairement aux femmes en uniforme à ces actions d'intégration. Donc là, c'est un concept très innovant qui a été conçu et mis au point par le fonds LC, c'est pertinent pour les pays qui contribuent et cette note propose une formation militaire pour les unités qui répondent aux critères. Ça, c'est une initiative incitative de façon que si le GSU met en place, déploie tout cela, en fait, il s'agit d'intégrer davantage de femmes en uniforme. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir précisément quand on demande à intégrer le GSU? Eh bien, quand c'est le cas, eh bien, nous, l'EIF, on va vous fournir un premier paiement. Le GUS va proposer un premier paiement pour les TPCC qui ont beaucoup de femmes dans leurs unités. Et donc, notamment pour les contributions militaires, mais ce n'est pas simplement, il s'agit pas simplement de chiffres, il s'agit de voir également que les femmes dans vos unités militaires sont intégrées dans tout le leadership avec des rôles de combat, etc. Donc, ces femmes dans les logistiques ne nécessite pas de recherche davantage de rôle opérationnel. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, quand le paiement GUC est fait, eh bien, les paiements sont habituellement reçus par le TPCC lorsque l'unité est déployée. Dans ce processus, l'EIF et le DPO vont vérifier ces demandes. Donc, il y a un processus rapide de vérification.
Et donc, on s'attend à ce que la prime augmente dans le temps, chaque année successive. Donc, on considère le GSU sur 3 ans maximum. Et donc, il y a augmentation à l'année 2 par 25%, puis 50% en année 3. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un nombre beaucoup plus important de femmes déployées dans chaque année successive. Également, sur l'écran, vous pouvez voir comment une capture d'écran. Et donc, voilà ce qu'on peut voir. Maintenant, pour parler du bataillon militaire concernant les chiffres de plus de 800 personnels, effectifs de plus de 800 personnes, avec des primes plus élevées et également pour les unités des forces de police. Et donc, on vous utilise à utiliser le calculateur GSU pour faire ces calculs. Lorsque vous recevez la prime, l'attente de l'EIF, c'est que vous allez réinvestir cette prime dans des activités qui renforcent le changement institutionnel et qui, avec également un élément transformatif, où vous allez pouvoir faire cela de manière viable et durable pour la participation sensée des femmes, une participation importante des femmes. Et ceci signifie l'importance de faire les formations, de former plus de femmes dans les compétences et capacités de combat ou autres capacités requises afin de les intégrer dans les forces de combat, dans vos propres institutions de sécurité, mais également les soutenir dans leur déploiement, dans les opérations de paix de l'ONU. Et donc, quand vous réinvestissez une prime, la prime dans votre pays, l'attente, l'attendue, et que l'activité va satisfaire aux objectifs de l'EIF. Et en particulier pour l'ordre du jour élargi. Et maintenant, juste pour le passé, dans le passé, on avait soutenu cela au Ghana, par exemple, et également pour les forces de police et de gendarmerie du Sénégal. Et ces deux déploiements GSU, c'était 1182 personnes avec un grand nombre de femmes représentées. Ces deux pays ont dépassé les cibles GSU. Le Ghana était à 15% de femmes déployées dans les contingents militaires, le Sénégal étant à 17% des officiers femmes en uniforme dans les forces de police. Une petite note rapide avant que je conclue cette section. C'est que l'EIF surveille, fait le suivi des contributions globales des pays envers les opérations de paix de l'ONU. Donc, quand vous allez soumettre votre demande pour une unité au GSU, cela ne signifie pas que l'EIF ne va pas avoir de visibilité sur les déploiements dans vos autres contingents. Donc, on vous encourage vraiment à continuer à déployer un nombre égal de femmes à travers ou équitable à travers toutes vos opérations. Et quand vous faites la demande pour le GSU, ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont être mises dans des bataillons des entités GSU. Donc, c'était juste pour vous dire que l'intention du GSU n'est pas que une des unités qui a été approuvée reçoive toutes les femmes pour être déployées. Alors maintenant, avec ceci, j'ai fini ma section sur le GSU et ça va maintenant être ma collègue qui va nous parler des propositions suivantes. Donc nous attendons la personne suivante, s'il vous plaît. Merci à vous sur Pava. Donc maintenant, je vais passer en revue le montant proposé pour le LOI et les critères pour l'EIF. Alors, pour la première série de programmation, vous pouvez faire une demande allant jusqu'à 1,5 million de dollars pour chaque proposition, avec un montant minimal de 100 000 dollars US et en tout 1,5 million de dollars est disponible pour soutenir les entités de l'ONU, y compris les opérations de la paix pour la paix, et seront réparties selon le nombre de demandes reçues. Donc, pour les TPCC, toutes les modalités de financement demandent, doivent être requises, doivent être incluses dans le LOI. Et donc, ceci veut dire que vous pouvez demander une évaluation des obstacles et également de la prime GSU. Ou bien s'assurer que vous avez MOWI plus FPF plus GSU. Alors, donc, quand on demande la prime, le montant va être séparé à ce qui est requis pour le FPF ou le MOWI. C'est-à-dire qu'un TPCC, un pays TPCC peut faire sa demande pour une combinaison de plusieurs de ces éléments. Et donc, aussi bien un financement MOWIP, prime GSU, ou bien une autre combinaison. Et veuillez noter que pour tous les pays TPCC, les demandes de financement FPS doivent être étayées par des éléments probants en termes de rapport MOWIP. Mais pour toutes les entités de l'ONU, y compris les opérations de maintien de la paix, bien que vous n'êtes pas obligé de fournir un rapport MOWIP, néanmoins, l'exigence existe toujours pour les demandes de projets financés de fournir la recherche, l'analyse et les données. Donc maintenant, je vais vous parler des critères de priorisation pour l'EIF. Donc en plus de satisfaire à tous les critères d'éligibilité et de fournir les informations suivantes qui sont requises par l'EIF, il est également important que tous les demandeurs comprennent les critères par rapport auxquels toutes les demandes vont être évaluées. Et donc, nous avons des fonds qui ne sont pas infinis. Et donc, nous évaluons les demandes sur les mêmes critères pour assurer que les fonds sont alloués à des projets qui ont un fort impact et qui sont pertinents du point de vue stratégique. Et nous, à l'EIF, nous avons, donc voici les 6 critères clés que nous avons. Le premier, c'est l'impact et la pertinence stratégique. Et donc, ceci compris les données de base et les cibles réalistes, les objectifs réalistes, et cela résultera probablement dans le déploiement d'un nombre significatif de femmes en uniforme. Ceci est extrêmement important. Alors donc, un nombre significatif de femmes en uniforme, en termes d'unité ou de contingence, c'est pas seulement dans des rôles individuels tels que les IPO ou officiers ou observatrices militaires. On regarde également, deuxième critère, l'engagement. Il faut démontrer comment les femmes, en particulier les femmes en uniforme, ont des rôles activement impliqués dans le cycle du projet, c'est-à-dire la conception du projet, sa mise en œuvre et également son suivi. Troisième critère, la durabilité est importante. Dans toutes les propositions LOI doivent démontrer comment le projet a été soutenu, une augmentation durable est soutenue, et également démontrer une appartenance nationale claire et forte. Également les enseignements à partager. Quatrième critère concernant cela pour l'EIF, l'EIF est particulièrement intéressé dans l'innovation. Ceci signifie que les fonds vont prioriser en particulier et montrer un intérêt spécifique pour tester et inclure les nouvelles solutions ou approches afin d'adresser les obstacles pour la participation des femmes. Et ces activités sont conçues pour tester de nouvelles solutions ou démarches qui peuvent être mises à échelle et reproduites à l'avenir. Cinquième critère, l'efficacité des coûts, la rentabilité. Chaque proposition doit démontrer une gestion et reddition de comptes forte en termes de finances. Le budget doit être précis, raisonnable et représenter un bon rapport qualité-prix, si on veut. Également, doit souligner quels sont les coûts. Le manuel d'opération EIF liste également les coûts inéligibles, tels que les armes, les munitions et les véhicules de quelque type que ce soit. Nous n'allons pas financer cela. L'EIF ne financera pas ces éléments. Et sixième critère, gestion et suivi. C'est les critères importants. Les projets doivent démontrer un cadre de gestion de projet fort, important, avec un comité de gestion de projet et également avec une expertise technique. Donc, la proposition doit inclure une bonne compréhension des risques clés et des stratégies d'atténuation et également un engagement clair pour le reporting en ligne avec le cadre de résultats EIF que nous avons présenté, qui vous a été présenté tout à l'heure. Ceci signifie que c'est vraiment un sens d'appropriation important en termes de projet et d'engagement tout au long du projet. Je vais maintenant repasser la parole à Deb, qui va nous parler des informations clés concernant la quatrième série de programmation. Merci beaucoup à vous, Marvol, pour ces notes et je vais maintenant passer à la diapo suivante. Voilà. Donc maintenant, nous allons. Cette section est très courte. Ensuite, nous aurons le temps pour des questions-réponses. Et ceci. Donc, ça, c'est. Vous pouvez aller sur notre site web pour la série de quatrième série de programmation de l'EIF. Il y aura les liens pour s'inscrire au webinaire suivant sur la manière de rédiger votre lettre d'intérêt. Nous avons des webinaires approfondis sur MOWIP, un webinaire qui aura lieu jeudi sur MOWIP et qui vous permettra de voir en profondeur ce qui va se passer. Donc, tout d'abord, je vais maintenant passer la parole. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la fonction questions-réponses, Q&A. Sinon, vous pouvez lever la main virtuellement et poser votre question en ligne également. Nous avons déjà une question qui recherchait des éclaircissements sur les 1,5 million de dollars. Alors, pour être très clair, nous sommes un programme de financement d'agence ONU Femmes. Vous pouvez faire une demande en partenariat avec des pays TPCC qui contribuent, qui sont fournisseurs de contingents et de forces de police pour diverses évaluations ou bien pour les appuyer avec leur demande de financement de projets flexibles. Et les 1,5 million, le plafond de 1,5 million de dollars. Lorsque vous êtes en partenariat avec les TPCC, ça ne s'applique pas. Le plafond de 1,5 million s'applique pour les organes des Nations Unies, par exemple, les opérations de maintien de la paix, ou bien s'il y avait une soumission de la part du secrétariat de l'ONU, peut-être le bureau des affaires militaires ou la division police, d'entreprendre un projet eux-mêmes. Donc, c'est encore en conformité avec le cadre de notre financement et notre cadre d'évaluation et de suivi. Donc, il y a ce plafond de 1,5 million de dollars. Dans notre troisième série de programmation, nous avons eu deux missions pour lesquels on nous avait demandé de soumettre une proposition très détaillée. Nous avions divisé ces 1,5 million par deux. Donc, chaque mission pouvait soumettre jusqu'à 750 000 dollars, faire sa demande pour cela. Et maintenant, ensuite, nous avions trois missions. Et donc, on étudie les propositions, on examine les propositions. Si on avait invité ces trois missions, à ce moment-là, ça aurait été 500 000 dollars pour chacune de ces missions, ça serait le plafond. Mais ce que nous faisons vraiment, c'est que avant d'inviter ces missions, nous demandons au DPO de revenir vers nous et d'assurer qu'elles nous disent quelles sont leurs priorités. Donc, à ce moment-là, on travaille de manière très étroite avec le DPO. Donc, alors, une question sur laquelle je souhaite revenir. Je vais faire cela, mais je vais vous demander s'il y a d'autres questions. S'il vous plaît, levez la main virtuellement ou bien levez la main virtuellement et je vais partager la dernière diapo avec vous qui a trait à cette question. Donc, voici les dates des présentations suivantes. Bon, maintenant, bon, il y a une question qui est, La Colombie est fortement intéressée de participer à la quatrième série de programmation. Nous comprenons que seulement une lettre d'intention par pays est acceptée. Une pour le militaire, le côté militaire, l'autre pour la police. Cependant, en Colombie, militaire et police sont sous la juridiction du ministère de la Défense. Comment est-ce qu'il faut présenter notre proposition? Donc.
Dans cette situation, en fait, si les deux concernent le ministère de la Défense, eh bien, nous demanderons une lettre d'intérêt, une lettre de motivation distincte, séparée pour ces deux institutions de sécurité. Et il y a un exemple de cela avec les pays francophones, par exemple, où la gendarmerie dépend à la fois du ministère de la Défense. Mais ils déploient leur personnel, les gendarmes. Donc le DPO regarde la gendarmerie et la police comme étant juste la police au sein du secrétariat. Nous, on voit qu'il y a des institutions de sécurité séparées et individuelles. Donc on soutient le Sénégal, en fait, avec leurs trois institutions de sécurité, à savoir la gendarmerie, la police et l'armée. Donc pour la Colombie, veuillez s'il vous plaît proposer deux lettres de motivation d'intérêt, l'une pour la police et l'autre pour les militaires, pour l'armée. Bien. Voilà, donc là, on a répondu à cette question, mais pour ce qui est de la question de la Colombie. Maintenant, une autre question qui demande si les présentations peuvent être disponibles. Oui, absolument. Donc, ceux d'entre vous qui se sont joints à nous un petit peu plus tard, eh bien, ne vous inquiétez pas. La présentation sera disponible sur notre site Internet. Si les collègues veulent bien partager leur site Internet sur la chat, le lien du site Internet sur la chat. Maintenant, la présentation orale, eh bien, elle sera disponible en anglais, en français, en arabe, mais également en espagnol. Et les slides elles-mêmes seront disponibles en anglais et en français. Elles seront téléchargées sur notre site Internet dans ces quatre langues dans quelques jours. Laissez-nous juste un petit peu de temps pour pouvoir les mettre sur notre site Internet. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que notre collègue va faire pour ses présentations, pour poster ses présentations et ses présentations orales et donc écrites et orales sur le site Internet. Maintenant, je pose cette question à nouveau. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait lever la main pour poser une question peut-être? Oui, il y a une main levée. Je vois une main levée. Peter Wanacha? Oui, Peter, si vous voulez bien activer votre micro pour poser votre question ou faire un commentaire, votre commentaire, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, on vous entend très bien, Peter. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup. J'aime toujours commencer par remercier et féliciter l'initiative ELSI. C'est extrêmement utile pour nous et nous apprécions beaucoup le lancement de cet événement hein, donc sur ce sujet. Donc une recommandation premièrement, ensuite une recommandation qui est aussi une question. Donc au cours de cette présentation, l'une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est le fait que certaines des réussites ont été effectuées grâce au fonds ELSI, par exemple 26 institutions sur la sécurité, mais également 16 TPCC. Alors, je voudrais juste suggérer que la chose suivante, il serait vraiment très bon si vous pouviez avoir la possibilité de mettre en place des échanges, notamment entre les pays. Ce serait des échanges très intéressants. notamment, notamment pour les pays qui n'ont pas encore bénéficié de la CIP, ils pourraient en apprendre, à tirer des leçons des autres pays, en fait, pour pouvoir faire des progrès significatifs. Également, il serait bon d'utiliser la technologie comme les webinaires pour pouvoir échanger, et ça aiderait beaucoup, cela serait très motivant, notamment pour des pays comme le Nigérien. Donc, ça aiderait beaucoup les pays. Donc, voilà, une petite suggestion, hein. Maintenant, le deuxième point, c'est davantage une question. J'ai regardé ce que sont les critères qui sont utilisés pour pouvoir évaluer les expressions d'intérêt, les propositions, et je me demandais juste. Si ces critères ne pourquoi ces critères ne sont pas considérés, peut-être que ce critère pourrait être pris en compte à l'avenir, à savoir le fait de se pencher sur les initiatives qui existent d'ores et déjà et qui pourraient constituer une valeur ajoutée pour ce qui est des missions de maintien de la paix. Par exemple, au Nigeria, nous avons un certain nombre de projets qui soutiennent les secteurs, les institutions liées à la sécurité, qui sont en ligne avec la résolution 1365, par exemple, 1325, par exemple, en Nigeria, nous soutenons différentes institutions de sécurité pour promouvoir la participation des femmes en uniforme dans les prises de décision. Nous n'avons pas encore pris en place des politiques d'adoption, etc. Et en raison de cette politique, eh bien, il y a une participation accrue des femmes en uniforme dans les prises de décision, dans les processus de la paix, des opérations de la paix. Et donc, je me penche sur cette opportunité. Et moi, quand je vois cette opportunité du point de vue d'Elsie, par exemple, est-ce que vous prenez cela en considération? Est-ce que vous avez cela en est-ce que vous avez cela? Est-ce que vous considérez cela comme étant une valeur ajoutée pour d'autres programmes qui existent d'ores et déjà? Et ce serait vraiment quelque chose que l'initiative ELSI pourrait compléter. Donc, je pense qu'un pays qui dispose d'un grand nombre de points de repère, eh bien, cela pourrait être très utilisé, notamment ça pourrait être très utile pour les projets, pour cette initiative, elle-ci, notamment dans les endroits, dans les pays où nous avons mis en œuvre des projets qui, justement, prennent à bras-le-corps ces problématiques. Donc, pour ce qui est des obstacles au maintien de la paix, etc. Donc, ces questions sont liées entre elles, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, est-ce que vous avez considéré le fait d'exploiter des initiatives qui existent d'ores et déjà afin d'avoir davantage encore d'impact? Merci beaucoup, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Peter, pour cette intervention absolument excellente, des observations vraiment de grande qualité, des recommandations que nous apprécions vraiment beaucoup. Donc, si je peux dire une réponse en un mot, eh bien, je dirais oui. Hein, pour ce qui est du fond, eh bien, ce que nous avons mis en place, eh bien, pour ce qui est des webinaires, nous avons donc mis en place ces webinaires pour la façon dont il est possible d'être candidat, de se porter candidat à ce fonds ELSI, mais également aux donateurs, certains des donateurs, plutôt dans cette année, pour faire exactement précisément ce que vous avez recommandé, suggéré, notamment pour ce qui est des partages, des webinaires sur les partages de leçons au niveau régional, au niveau mondial. Et en effet, c'est très, très intéressant et cela aide le fonds, notamment pour ce qui est de traiter les problématiques, d'apporter des solutions dans les régions, dans les pays où il y a le plus de besoins à ce sujet. Maintenant, bien sûr, il est important de voir ce qui relève des chiffres, mais maintenant, il s'agit également de l'impact de certaines de ces activités et c'est vraiment essentiel pour nous de partager cela également. Donc, ce que je dirais, c'est suivons les médias sociaux. Maintenant, nous sommes sur LinkedIn, mais également sur Twitter, en fait, sur X, hein, depuis quelque temps. Nous allons lancer prochainement une campagne de communication pour ce qui est de ces webinaires, mais cela fonctionnera seulement Et cela sera très positif seulement lorsqu'on pourra inviter les TPCC pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qui a été fait dans ces domaines, dans leurs régions respectives. Et ça, c'est en effet, c'est un point très important que vous soulevez. Et il s'agit non seulement des partenaires ELSI, mais également des TPCC. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas simplement des TPCC que ELSI soutient et finance. Et en fait, nous aimerions beaucoup inviter le Nigeria, ONU Femmes, les forces armées du Nigeria de participer également pour pouvoir souligner certaines activités que les institutions de sécurité ont déjà entreprises. Et également pour souligner vraiment quel est l'impact de ces activités. Et donc, voyez, ça c'est essentiel, vraiment important, et je vous remercie beaucoup, Peter. Et vraiment, je prends en compte vos observations, vos commentaires et vos questions. Maintenant, je regarde l'heure, il nous reste plus que 4 minutes, et je vois que Zazaoui Masso a également levé la main. Donc, s'il vous plaît, prenez la parole, je vous en prie, pour une question, une intervention courte, si vous le voulez bien. Merci beaucoup par avance. Si vous parlez, je ne peux pas vous entendre. Je le crains. Vic, est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Oui, je vais vous aider. Vous avez la parole, Zaida. Malheureusement, si vous parlez, je ne peux pas vous entendre. Lorina, vous levez votre main. Ou est-ce que c'est l'une de vos interprètes ou un de vos interprètes? Oui, Lorena, vous aviez votre main levée par erreur. C'est Lorena, elle l'interprète. Donc, Zoziwe, nous aimerions vraiment que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez poser votre question. Je suis sûre que vous avez quelque chose d'important à dire, Zoziwe de l'Afrique du Sud. N'hésitez pas. Si vous voulez bien, peut-être écrire votre question ou dans la partie questions-réponses ou dans la chat. Voilà, il ne nous reste plus que 3 minutes, donc. En tout cas, cela nous amène à la conclusion. Je voudrais vraiment vous remercier, chacun d'entre vous, de vous être joint à nous, également pour cette session questions-réponses, mais également pour le RGPD, le processus de diligence raisonnable de l'ONU. C'est un sujet qui a été évoqué dans notre chat. Je vois que Zuziwe est avec nous. Si vous pouvez activer votre micro, Zuziwe. Oui, merci. Bonjour à vous, bon après-midi, hein, parce que c'est l'heure sud-africaine, et bonne matinée aux autres, bonne soirée aux autres. Je voudrais juste exprimer ma gratitude au fond, Elsie, pour cette session quant à la façon dont on peut être candidat pour ce financement. Maintenant, j'ai une question. Lorsque vous dites les obstacles, l'évaluation des obstacles, eh bien, quelle est l'implication si le pays le fait, si elle fait son évaluation, si le pays fait son évaluation des obstacles, en fait, comment peut-il se qualifier en termes de critères pour le financement? Quand vous dites, que voulez-vous dire quand vous dites que les pays peuvent effectuer leur propre évaluation d'obstacles? Alors, lorsqu'on dit qu'un pays peut faire sa propre évaluation d'obstacles, eh bien, ce que nous voulons dire, c'est que Eh bien, tout d'abord, c'est un processus qui prend entre 8 et 16 mois en fonction d'un certain nombre de facteurs, de conditions requises. On va approfondir la question de l'évaluation des obstacles, mais également, il y a un coût pour effectuer l'évaluation des obstacles et un pays pour qu'il soit intégré. Il faudrait qu'il y ait un institut sur la sécurité pour le soutenir. Il y a cela prend du temps. Il faut que le pays soit prêt à mettre en œuvre une méthodologie d'évaluation d'obstacles en utilisant leurs propres ressources, en utilisant les exigences minimum pour effectuer cette évaluation et pour suivre les modalités, mais également pour apporter, nous envoyer, nous fournir un rapport fort. Et donc, on pourra passer en revue ce rapport et il s'agira ensuite d'aider le pays pour savoir comment faire élaborer un tel rapport afin de pouvoir bénéficier d'un tel fonds. Alors, ce que je dirais, c'est qu'à ce jour, probablement les fonds de Connell, par exemple, et d'autres partenaires de recherche n'ont pas vu une méthodologie similaire nous a été fournie par un pays et qui a résulté en une évaluation d'obstacles assez fort pour un pays en particulier. C'est la raison pour laquelle nous disons que la méthodologie que nous préférons porte sur la méthodologie DECAF-CONEL, qui a été pilotée, coordonnée dans un certain nombre de pays. C'est maintenant la norme, le standard, l'évaluation standard que nous utilisons, la DECAF. Donc, veuillez vous joindre à nous, s'il vous plaît, jeudi prochain, pour que nous puissions approfondir ce sujet sur l'évaluation, la méthodologie d'évaluation des obstacles. Il y aura d'autres opportunités pour des questions plus techniques et en fonction du type des modalités de financement que vous recherchez. Eh bien, veuillez, s'il vous plaît, vous joindre à nous, nous avons le lien sur la chat. À nouveau, un grand merci à chacun ici, chacune, de vous être joint à nous, également aux orateurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de matinée, fin de soirée. Et sur ces mots, je vous dis chaleureusement au revoir.